Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars.
Hello,
salut,
hello.
Pascal, salut Dan.
Yo.
Salut à tous. Salut à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Hein, petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Pour ça, on se retrouve en live sur notre compte Instagram, Les Gentilshommes, les mardis soirs et jeudis soirs, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Non, mais ce que je veux préciser, sur lequel vous êtes très nombreux à nous suivre et on vous en remercie.
Ouais.
Parce que là on parle.
Ça fait plaisir.
Le million a été largement passé. Voilà.
Donc, merci à ceux qui nous écoutent, franchement.
Il faut le dire.
C'est pas une blague. On a passé le million d'écoutes il n'y a pas longtemps.
On est vraiment
hyper fiers.
Nous voilà millionnaires. Voilà.
Merci à tous.
Et je profite de cette intro pour lancer un appel à témoignages. On recherche des filles qui auraient envie de parler de la solitude en ces temps de confinement, mais aussi de rupture. Donc, si vous vous sentez concerné ou que vous avez envie de parler, faites-nous signe dans nos DM sur Instagram et on en parle. Notre invité du jour, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, on reçoit Charline du compte Orgasme et moi, qui nous fait l'honneur de venir parler avec nous dans notre podcast. Salut Charline.
Salut les gars.
Salut Charline.
Ça va, vous allez bien?
Connie, tu peux...
Bah oui, Charline,
tout simplement.
Charline, qui es-tu? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ta page Instagram? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi sa philosophie? Il y en a qui diraient ligne éditoriale. Voilà. Qu'est-ce que c'est Orgasme et moi?
Voilà, plein de questions.
Alors, dans l'ordre, si tu veux, qu'est-ce que c'est Orgasme et moi?
J'ai créé une page qui s'appelle effectivement Orgasme et moi sur Instagram. C'était en février 2019. L'envie, si je dois décrire une ligne éditoriale, c'est de créer un espace safe, bienveillant, inclusif pour laisser à chacun la possibilité de s'exprimer, de s'éduquer, de partager sur toutes les sexualités qui existent. Voilà.
D'accord. Et comment tu fais au quotidien?
Waouh!
Ouais, c'est la question, elle est impossible cette question.
Quand tu me poses cette question, je suis en train de dire, mais comment est-ce que je peux résumer une histoire? Donc, ça fait quoi? Ça fait bientôt 14 mois. 14 mois, en fait, qui m'ont complètement dépassé. Ensuite, y a peut-être des personnes qui ont lancé des pages, ils savaient déjà qu'ils allaient avoir, tu vois, des millions de vues, tout ça. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai créé une page, comme tu crées un blog où t'espères avoir ta grand-mère, ta tante et ton frère, quoi. Donc, tu vois, j'ai vraiment créé un truc sans imaginer que ça serait ça. Et en fait, le compte a grossi très vite. Donc, en 14 mois, ça fait même pas 14 mois, il y a 143 000 personnes sur le compte.
Ah oui, c'est énorme, bravo.
Ah oui, c'est pas mal, hein, bravo. Hein.
Ah la vache.
Effectivement, t'as largement dépassé le cadre de ta famille.
Sur un compte qui s'appelle Orgasme et moi, quand même.
Tu sais, la famille orgasmique, j'espère qu'elle est grande. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, c'est un travail. Ça a été d'ailleurs tellement important dans ma vie et ça a tellement un peu pris la place sur tout. Genre, pousse-toi un peu la vie pro, pousse-toi un peu la vie familiale. Enfin, ça a vraiment tellement pris de place que j'ai demandé à mon employeur un congé, un congé sans solde en l'occurrence, pour pouvoir un peu m'occuper de cette page tellement c'est du travail en fait.
Ouais. Et concrètement, pour que les gens qui ne connaissent pas ta page comprennent ce qu'il y a dedans, comment tu peux décrire le travail que tu fais dedans? Enfin, quels sont ton moyen d'expression à l'intérieur?
Ok, alors il y a deux choses. D'abord, il y a les posts comme toutes les pages Instagram. Donc, il y a des posts réguliers sur lesquels je donne la parole à toute personne qui souhaite faire avec illustration, sans illustration. Mais c'est des témoignages d'épisodes un peu sur la sexualité où moi, j'essaye d'apporter une touche d'information. On va dire éducative, mais on va dire light. C'est essentiellement quelqu'un qui va s'exprimer et beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans une situation liée à la vie sexuelle. Et ensuite, il y a beaucoup, et ça, c'est vraiment l'essentiel de mon travail, c'est des stories éducatives. Et en fait, l'objectif, c'est pas d'apporter moins un savoir un peu en mode cours magistral. C'est éventuellement de faire une très rapide intro. Je vais citer un thème, la sodomie, le BDSM, le squirting et... Au-delà des quelques informations que je vais donner rapidement sur une ou deux slides de story, c'est « Et vous alors ? C'est quoi vos techniques pour faire de l'anal sans avoir mal, pour faire squirter votre partenaire, pour BDSM, qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous fasse ?» En fait, c'est donner la parole à tout un chacun. Et en fait, c'est très simple. Moi, quand je lance un thème, j'ai un peu l'impression de me mettre au milieu de l'arène et dire « Allez-y, envoyez-moi ». Et en fait, maintenant, aujourd'hui, la communauté est grande aujourd'hui. Quand je lance un thème, ça veut dire qu'en quelques heures, je vais recevoir, aujourd'hui, ça se calcule en milliers de messages. C'est-à-dire là, typiquement, en 48 heures, 1000 à 2000 messages. Ouais.
Tu réponds à tout ?
Comment tu fais pour tout lire, là ? C'est la folie, quoi.
Là c'est pas mal. Là, j'avoue que je trotte un nombre d'heures de travail que j'avais jamais imaginé dans ma vie d'ailleurs. Donc en fait, d'abord je lis tout parce que moi mon travail ensuite derrière c'est de processer ça à travers un filtre qui est mon filtre. C'est mon jugement, mes tropismes. C'est aussi refléter une certaine diversité d'expériences. C'est aussi et sélectionner les témoignages qui mes fils conducteurs, et ça c'est quel que soit le sujet abordé, c'est toujours le respect, le consentement, la bienveillance et aussi des choses des diversités d'expériences, donc des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Mais voilà, donc ça c'est tout ce que je sélectionne comme message et que je mets dans ma story ensuite je me sers des outils Instagram pour rendre le truc un peu digeste. Et puis en fait, ces stories-là, elles sont à la une pour que quelqu'un qui a envie d'explorer sa sexualité, quel que soit son âge, que ce soit au stade de la découverte, que ce soit au stade de... il y a des stories libertinage, sexe à trois, sexualité des jeunes parents. En fait, tous les sujets sont abordés. Donc, ce n'est pas que pour les gens qui sont en amont, on va dire, puissent aller rechercher, un peu comme dans une forme d'encyclopédie, des informations qui sont pas des informations de genre le Laurence Pernoud de la grossesse, donc je suis pas le Laurence Pernoud de la sexualité. En fait, je suis juste un recueil d'expériences qui sont des expériences bienveillantes, inclusives, sur la sexualité et sur tous les thèmes possibles et imaginables. Voilà, je sais pas si ça résume bien la situation.
Oui, c'est très clair.
Alors, si, à fond,
Mitch a un petit message pour nous. Est-ce que tu peux tenir ton micro? C'est un petit message technique vraiment rapidement. Et en fait, c'est parce qu'il tape dans ton
D'accord. Et là, c'est mieux beaucoup. En fait. Ouais, tu m'entends mieux, Mitch?
Là, on t'entend bien, là. Moi, j'avais juste une petite question, Cherline. C'est quand tu as lancé ce projet, j'allais dire ce truc, mais ce projet, c'est un vrai projet. Donc, tu disais, ça fait 15 mois, c'est ça, 14 mois?
Ça fait même pas 14 mois.
Ouais, même pas 14 mois. Et pourquoi, en fait, déjà, pourquoi tu es parti sur Instagram et tu t'es pas dit, je vais faire justement un blog? Parce que tu disais, ça pourrait être un blog ou un podcast, parce que, en fait, finalement, ça pourrait aussi se prêter au podcast. Toi, c'était un média qui t'intéressait particulièrement ou t'as fait un peu par hasard et tu t'es dit essayons Instagram et puis on verra bien?
Non, c'était... Alors déjà, Bon, alors je vais directement mettre les deux pieds dans le plat. J'ai 37 ans, donc j'ai voilà, un tout petit peu, enfin, je sais pas te dire d'expérience, mais en tout cas, bon, voilà, j'ai mon âge, j'ai 37 ans. D'ailleurs, voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et la sexualité, pour moi, c'est un sujet que je travaille depuis 20 ans, j'ai envie de dire, à l'explorer, à rechercher. Et en fait, j'avais déjà créé des projets. Donc, en l'occurrence, j'avais déjà des blogs, j'avais déjà créé des projets in real life, hein, donc en présentiel. Voilà. Mais en fait, j'étais jamais arrivée sur les réseaux sociaux parce que, personnellement, c'était pas ma came forcément, les réseaux sociaux. Mmh. Et un jour, je suis arrivée sur Instagram. Ben, c'était pas compliqué, c'était fin 2018. Et en fait, et ça, j'ai envie d'en parler carrément, il y a un truc qui se passe sur Instagram en ce moment et que je trouve magnifique. Il y a une vraie, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est une révolution féministe et sexuelle, mais en tout cas, il y a une bonne énergie. On est un certain nombre de comptes, en fait, à travailler ensemble pour essayer un peu de changer les choses. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une planète qui existait, enfin féministe, sexo-féministe, je sais pas comment dire ça. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, mais c'est là que ça se passe, tu sais, la meuf, elle est en train de faire sa fête sur son île toute seule et elle découvre que Paris, ça existe, tu vois, ou enfin que Londres ou New York existe. Et tu vois, j'étais, ah putain, en fait, il y a des trucs qui se font ailleurs et genre, c'est de la bombe. Bah, attendez, j'arrive. J'ai créé mon compte en me disant, oh, c'est trop drôle, plus on est de voix de toute manière à, enfin, plus on est de voix à aller dans le dans, à chanter ensemble, plus ça va faire changer les choses, en fait. Et donc, moi, je. Ouais.
Alors, c'est ça qui t'a poussé à le faire ou il y avait d'autres motivations supplémentaires?
Tu veux dire le compte Insta?
Oui.
Oh non, le compte Insta, c'est juste, j'ai envie de dire, le énième projet par rapport à des blogs que j'avais avant ou des projets que j'avais. D'accord. Ou des meet-up. Et en fait, oui. Celui-là, en l'occurrence, j'ai pas compris pourquoi, mais enfin, sans doute, c'était au, ben,
il y a le bon moment, au bon endroit, quoi.
Et ouais, mais carrément, mais dans la vie, en fait, enfin, c'est un peu terrible de dire ça, mais il y a des moments où bah, t'es au bon endroit, au bon moment. Et ben, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, je pense. Et ensuite, c'est pas, alors, juste, bon, voilà, j'ai envie de dire, il y a une question où, de timing, c'est clair. Après, il y a un truc sur lequel moi, j'hallucine, hein, c'est le travail, en fait. C'est-à-dire, les gens, ils voient la vitrine, ils disent « Oh, ouais, c'est un compte Instagram, c'est cool, ça marche bien. » La réalité d'un compte Instagram, moi, je vais la dire tout de suite, surtout en période de confinement, ça veut dire c'est 500 messages par jour, par exemple. 500 messages par jour, en moyenne.
Auxquels tu réponds, tu veux dire.
Auxquels je lis, ouais, que je lis, auxquels je réponds, ouais, tout à fait. Parce que en fait, tu sais, les gens, ils te racontent pas. Enfin, je sais pas comment c'est vos messages à vous. Hein. Ouais. Je veux bien d'ailleurs vous entendre là-dessus. Ouais. Moi, mes messages, les gens, ils te livrent des tranches de vie, ils te livrent des vécus, des expériences. Et en fait, c'est déjà et puis aussi parfois des expériences traumatiques. Enfin, c'est impossible pour moi de me dire qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'aide et que j'ai même pas genre daigné regarder. Donc en fait, par défaut, je regarde tout et je lis tout et je réponds à tout le monde. Voilà.
Ouais, bah, du coup, tu m'étonnes que tu as dû demander un congé sans solde. Et moi, j'ai une question qui va être un tout petit peu hors sujet, mais comment vont tes pouces, du coup? Parce que c'est 500 messages par jour au niveau des pouces, ça doit être assez, assez compliqué à gérer, non?
Tu n'as plus de pouces, en fait, c'est ça.
Parce que c'est, moi, je trouve que c'est le... Non, mais le problème d'Instagram, c'est ça, c'est que tu es nécessairement sur un device pour être sur Instagram et ce device, au niveau des pouces, moi, je sais que quand je passe trop de temps sur mon téléphone, mes pouces, ils me disent stop, quoi.
Alors, attends, moi, j'ai découvert un truc génial et c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. C'est ma voix, en fait, mais je pense que vous êtes bien placé pour connaître le pouvoir de la voix. Moi, je passe ma vie à laisser des vocales aux gens. Donc, je me dis, allez, t'as une minute.
Mais c'est génial, en fait. Ça, c'est génial. Tu laisses des réponses vocales, quoi. Ouais. Des messages vocaux, hein.
Ah d'accord, bah, comme, comme sur WhatsApp quand on se laisse des messages vocaux, en fait c'est pareil, quoi, c'est ça.
Exactement, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes plus sensible à une personne pour laquelle vous avez de l'attirance ou pas d'ailleurs, qui va vous dire j'ai envie de toi, ou est-ce que vous avez tout de suite beaucoup plus le truc quand il y a quelqu'un qui s'enregistre et qui vous dit tu sais j'ai vraiment très envie de toi, en fait. En fait, le pouvoir de la voix.
Il y a de la mise en scène en plus dans la question.
Bah, en fait, je sais, mais voilà. Alors moi, je réponds aux gens essentiellement avec ma voix. D'abord parce que ça économise des pouces. Et puis ensuite, parce que les gens, ils mettent un peu de... Enfin, ils mettent pas un peu, ils mettent carrément vachement de perso et leur vie, et leur trauma, et leurs espoirs, et tout ça dans leurs questions. Et moi, en fait, je trouve ça juste... Et facile, enfin, et plus facile en tout cas pour moi, et aussi beaucoup plus impliquant et engageant. La voix, en plus, moi, c'est difficile de mentir avec la voix. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis sensible à la sincérité, à l'authenticité de ce que j'entends. Donc, moi, je laisse des messages vocaux. Donc, si tu fais le calcul, t'as le nombre d'heures que je passe rien qu'à répondre aux messages. En ce moment, ça, c'est de l'ordre de 8 heures par jour, en fait. Et rien que ça, c'est répondre aux messages. Je parle même pas de créer la story, préparer les témoignages avec les témoins, moi lire ma bibliographie parce que je suis abonnée à je sais pas combien de mots-clés Google pour être au fait de tout ce qui sort en termes de sexologie ou de sexual medicine sur tout ce qui concerne pour rien louper. Enfin, en fait, tu vois, tu mets tout ça bout à bout. Mon mari m'a dit que j'avais travaillé 80 heures les deux premières semaines de confinement. Voilà.
Mais alors, attends, comment tu équilibres le plaisir et le, je sais pas quoi, le calvaire, mais le... Tu sais pas comment dire, pas la rançon...
Le sacerdoce.
Mais ouais, voilà. Comment tu trouves un équilibre? Et est-ce que tu trouves un équilibre? Est-ce que finalement, il y a plus de plaisir ou plus de douleur, tu vois? Ou alors, je sais pas, la douleur devient du plaisir. Ça, c'est encore un autre débat, mais...
comment... Déjà...
Pardon.
Déjà maintenant, on attend.
Il est 21h15, on y va.
Les enfants.
Comment tu trouves un équilibre?
Écoute, le jour où j'ai plus de plaisir, j'arrête.
Ouais, ça veut dire que ça reste quand même un plaisir d'avoir ces échanges avec ces personnes, de pouvoir y répondre, même si tu travailles comme une tarée.
Oui, c'est la première. Enfin, je pense qu'il y a aussi une compensation. Hein. Mais alors, c'est cool hein, parce que j'ai tellement, enfin, j'ai travaillé 12 ans dans quelque chose qui n'avait, pour moi, pas le sens que ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, que, enfin. Tu vois, tu travailles et tu te dis, en fait, moi, je m'étais faite une raison, quoi. Que vu les études que j'avais faites et vu ce qui m'intéressait par ailleurs, j'étais en mode, bon, de toute façon, ce que je ferais pour gagner ma vie n'aura jamais aucun sens pour moi. Et tout d'un coup, en fait, il y a une espèce d'alignement, tu vois. C'est-à-dire, c'est un truc qui, à la fois, m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, c'est ça me passionne, ça m'obsède. Ouais, ouais. Ça fait 20 ans que, genre, je pense que j'ai lu mes premiers bouquins de féministes pro-sexe américaines, tu vois, c'était en 99, tu vois, ça fait 20 ans.
20 ans.
Et que, je suis un peu, j'explore un peu. Et du coup, là, je suis à la fois dans le plaisir, dans la passion, dans une forme d'expertise. Alors, d'autodidacte en France, on ne sait pas ce que c'est, ça veut dire autodidacte. Mmh. Ça veut dire que j'ai reçu quand même un mail avant le confinement qui me demandait de donner des conférences de sexualité à des élèves en médecine et en maïeutique. Donc, sage-femme, je dis...
C'est cool.
Bon, alors, en fait, potentiellement, que je le veuille ou non, en fait, tu deviens expert parce que moi, je passe tellement d'heures en fait, à travailler... et les bibliographies, j'ai envie de tout savoir de ce qui sort, donc ensuite je suis perfectionniste, je lis absolument tout ce qui sort en termes d'études médicales et d'études scientifiques, mais c'est vrai que là est aussi une forme d'utilité, c'est-à-dire quand tu reçois, alors sur les 500 messages, je ne sais pas quel pourcentage, peut-être 10%, qui te disent, c'est juste des remerciements en fait, juste des gens ou 10 à 20% qui vont te dire que tu as changé ma vie, tu es d'utilité publique, je le conseille à tous mes amis. Aujourd'hui, quelqu'un, un soignant, qui m'a encore dit que les sexothérapeutes, dans l'unité de maternité gynéco-obstétrique de là où elle travaille, tout le monde cite mon compte en référence. Enfin, les psychologues m'expliquent qu'ils réorientent vers mon... Enfin, tiens, il y a un moment, en fait, tu t'es dépassé, mais tu te dis, OK, donc ce que je fais, c'est utile et ça me fait plaisir. Et en plus, je pense que je commence à comprendre, ou en tout cas à en tenir un minimum sur le sujet. Donc là, je vis un tel alignement que je pense que je suis encore un peu comme quand tu es dans la phase de passion, tu vois, que tu as un crush.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
J'ai juste
Vas-y, je t'en prie.
Non, vas-y. Non, pardon, je t'ai coupé, vas-y.
Là, mais voilà, c'est juste cette phase où je pense que je suis très très fatiguée malgré moi. Je suis sans doute dans un burn-out sans même me rendre compte que je suis dans un burn-out tellement je travaille. Mais en fait, c'est tellement d'énergie en même temps positive et que j'attendais, ça fait... Attends, j'ai attendu ça toute ma vie. Je vais laisser moi kiffer ma petit truc et en fait bon bah il y a un jour où je vais m'écrouler mais ce sera le moment où je lèverai un peu le pied quoi, c'est tout, tranquille.
J'ai une toute petite question très technique qui m'intéresse à titre perso, c'est combien de temps tu passes sur un poste? Sur un poste en gros, tu sais plus ou moins genre quoi, 4 heures, 8 heures, je sais pas en fait. Ça dépend peut-être aussi, ça dépend peut-être.
Ça dépend ensuite Il y a un côté un peu, tu vois, des gens qui font des castings sauvages, c'est-à-dire ils se baladent dans la rue et puis ils repèrent des personnes pour des films, des projets. Moi, ce que je fais en termes de témoignages, c'est pas mal des castings sauvages, c'est-à-dire sur tous les messages que je reçois chaque jour, en fait, je finis par avoir l'œil, c'est-à-dire il y a un message que je vais recevoir et je vais me dire oh, ok, ça c'est mon témoignage ou ça c'est un témoignage.
Ouais. C'est un truc à creuser et tout. Ouais.
Donc tout de suite, j'identifie si le témoignage il est déjà brut, pouvant être travaillé un peu comme une pierre que je vais pouvoir polir. Je demande juste à la personne, je dis alors bravo, alors là tu viens de gagner une place sur le feed. Je demande si la personne est d'accord, si elle souhaite être taguée ou si elle souhaite être anonyme évidemment. Et je lui dis bah écoute, je vais bientôt revenir vers toi pour qu'on travaille le témoignage ensemble. Soit la personne elle me dit des choses et je me fais oh, c'est un sujet mais passionnant, par contre elle m'a trop peu dit, enfin faut qu'elle creuse. Dans ce cas là je vais lui dire est-ce que tu peux juste spécifier comment en fait t'es passé de la case A à la case B s'il te plaît, et du coup et là je vais travailler le témoignage. Ensuite quand il y a une illustration à chercher, enfin si je te dis que là ne serait-ce que pour l'illustration d'aujourd'hui, tu vois, j'ai creusé, j'ai demandé à des copains qui sont également graphistes, illustrateurs, de travailler. Puis j'ai fait machine arrière et puis ensuite je suis allée rechoper d'autres trucs. Raphaël et Marinetti, je suis allée lui demander l'autorisation parce que moi je ne mets jamais aucun dessin. Je ne me contente pas de taguer, de créditer. Je vais demander personnellement l'autorisation à chacun des artistes dont j'utilise les œuvres. Donc voilà. Enfin ensuite voilà. Mais donc là ouais, 4 heures facile, très facile.
Ah ouais, 4 heures minimum presque.
Ouais minimum ouais. C'est entre 4 et 8 je pense boulot. Que c'est un peu. Bon. Non, enfin, je sais pas quoi dire en fait. Bon, ouais. En fait, tu sais, je crois que je pense être. Des fois, je dis à mon mari, je suis la personne la plus lente d'Instagram. C'est-à-dire, même pour publier mes posts, j'ai toujours l'impression que je vais faire parfois 5 versions d'un slide de story. Parce que, enfin, je sais pas, ça fait partie de mon éducation. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir une parole impeccable. Et en fait, avant de poster quoi que ce soit, je vais avoir une espèce de radar qui va tourner 5 fois à 360 en train de me dire est-ce que personne va se sentir blessé ? Est-ce que tout le monde va se sentir inclus ? Est-ce que l'information que j'ai mise est correcte ? Est-ce que le gif que j'ai mis est pas bon ? Est bon ? Ah, c'est pas bon ? Tiens, je vais en essayer 20 autres pour m'amuser. Est-ce que la musique que je mets est OK ? Enfin, tu vois, je suis sans doute la personne la plus lente. Et en même temps, cette lenteur, cette espèce de perfectionnisme, bah, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi j'ai plus de 140 000 aujourd'hui personnes qui ont choisi de venir un peu suivre ce que je peux raconter, voilà, cette espèce de, en anglais on dit le flight to quality, c'est-à-dire le vol vers la qualité, pour moi c'est quelque chose qui est, que j'assume à 100%, voilà, c'est tout.
Dis-moi, on a une question sur le live Instagram. Il y a quelqu'un qui nous demande d'où vient le nom de ton compte.
Ah, c'est une très bonne question. Merci. Je ne sais pas quelle personne a posé la question. Le compte,
c'est un compte qui s'appelle Olaet. Olaet. Okay, voilà, qui okay. demande Et sur ben, le live Instagram.
C'est une très bonne question parce qu'en fait, à la base, le compte ne s'appelait pas comme ça.
Et oui, je me souviens. Mais c'est en plus, je me souviens qu'au début, quand je te suivais, il s'appelait autrement. Je sais plus comment il s'appelait maintenant. On a oublié, Orgasme et moi. Comment il s'appelait au début ?
Il y a un nom absolument ridicule que vous allez retrouver si un jour vous essayez de m'envoyer un mail. Il s'appelait Orgasmic Girl.
Girl.
Oui. En Exactement. Fait, à la base, je parlais de mon cul, quoi. Et je parlais de moi. Et en fait. Je sais pas comment dire ça. En fait, à la base, ensuite, ça m'a très rapidement dépassée. Au bout de 3 semaines, j'ai arrêté de parler de moi, j'ai parlé que des autres. Mais au début, je voulais, je pensais naïvement que j'allais pouvoir parler de moi ou que j'allais tenir la. En fait, au bout de 3 semaines, tu sais, j'ai commencé à poster des anecdotes et en fait, très rapidement, les gens m'ont tellement envoyé de trucs. En fait, il ne s'agit plus jamais de moi, en fait. Et j'ai dit aux gens, mais écoutez, on va changer de nom parce qu'en fait, le nom n'est plus adapté à ce que je fais sur ce compte. Et du coup, j'ai lancé un peu une boîte à idées. Je dis, bah écoutez, donnez-moi des idées. Je vais utiliser une de vos idées. Et il y a une voilà, et je vais pas la nommer parce qu'elle a pas forcément envie d'être nommée, mais ouais. Il y a une personne dont le prénom commence par A qui est en Belgique. Et je la salue si elle nous écoute. Qui m'a dit, qui m'a lancé le nom en fait. Et j'étais là en mode, waouh, c'est trop bien ça. Et je l'ai lancé en vote. Il y a eu une votation majoritaire. Alors du coup, c'est devenu. Et puis ensuite, que des bonnes volontés. Mais ce compte, il y a un côté un peu collaboratif, un peu participatif depuis le début. Et tu vois, le compte, il était tout petit. Hein. Enfin, je pense que j'ai changé, il y avait 300-400 personnes. Autant dire que c'était encore un bébé compte. Hein. Et le bébé compte, il y a quand même une personne qui m'a suivie, qui m'a dit, tu sais, elle m'a dit, ce que tu fais est extraordinaire. Tu ne le sais pas encore, mais ça, tu vas faire j'espère de tout cœur que tout le monde un jour tombera sur ton compte. Et moi, ça serait un honneur pour moi que de dessiner ton logo. Et tu vois, le logo, c'est un cadeau, le nom, c'est un cadeau. Enfin, en fait, les gens, ils donnent énormément. Donc, enfin, ce compte, c'est un peu. Enfin, je le dis souvent, c'est moi qui l'administre, je sais pas qui l'anime, mais en tout cas, c'est clairement une espèce de. Il y a un côté que j'aime beaucoup qui est un peu populaire, enfin, dans le sens. Populaire dans le sens où chacun a un peu sa place dedans, quoi. Ouais. Et le fait vivre.
Et justement, tiens. Aujourd'hui, quel impact il a ce travail que tu fais sur toi ?
Non, pas ça.
Non, c'est pas la bonne question. T'es pas obligé d'y répondre si tu veux pas.
J'avais envie de dire quel est l'impact de ce que vous faites, par exemple vous, sur vous ?
Moi je peux te le dire l'impact que ça a sur moi. Moi, c'est de faire ces podcasts, de prendre l'initiative de réunir deux copains et ensemble d'aller interroger des femmes sur plein de sujets. Moi, ça m'éveille, ça m'a ouvert, ça m'a permis d'être quelqu'un de plus humble, de quelqu'un de plus à l'écoute, d'être chaque jour un meilleur homme. Après, j'étais déjà dans une démarche de l'être dans ma vie personnelle depuis des années, mais ça me l'a permis encore plus. Et donc ça, c'est sur le côté homme. Et après, sur le côté amical, moi, ça me permet de passer du temps de qualité avec des amis avec qui on a un projet qui est formidable parce qu'il nous unit, parce qu'il nous, nous stabilise. Attends, c'est le premier projet qu'on fait. On se connaît depuis des années, hein, et c'est le premier projet qu'on fait. On n'a jamais dérogé à notre règle de régularité, par exemple. C'est tout con, hein, mais moi, je suis absolument instable et je suis absolument irrégulier. et ce projet-là, on réussit depuis qu'on l'a lancé. On n'a jamais dérogé. Tous les 15 jours, il y a eu un épisode, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y en ait un d'entre nous qui parte en vacances en Nouvelle-Zélande ou que l'autre, il parte en Thaïlande. Personne n'a jamais rien vu.
Il y a une épidémie.
On a toujours... Ouais, qu'il y ait une épidémie, on est toujours là. Et je trouve que ça, humainement, moi, ce podcast, il m'a énormément apporté, il m'apporte tous les jours et il me permet de me dépasser à tous les niveaux.
C'est beau, Pascal, je vais pleurer.
Ouais, tu peux.
Non, Dan, j'ai envie de t'entendre. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ?
Bah, écoute, pareil, en fait, c'est vrai que c'est hyper enrichissant, quoi. C'est hyper enrichissant de faire ce podcast parce qu'on est à la fois humainement, comme disait Pascal, c'est une aventure humaine pour nous parce que c'est un projet qu'on fait. Et je pense que c'est un peu comme pour toi, ce que tu disais, il y a aussi ce côté de faire un projet où tu sais qu'il y a quand même des gens qui t'écoutent et qui, alors nous, on n'a pas 150 000 personnes sur notre Instagram, mais on a, parce que, voilà, nous, on fait un podcast, mais on sait quand même qu'on a pas mal d'auditeurs. Comme on disait au début, on a dépassé là 1 million. Alors ça, c'est tous les podcasts qu'on a fait depuis le début, mais c'est incroyable. Et puis après, pour ma relation personnelle, moi, en tant qu'homme avec les femmes, bah, j'apprends énormément de trucs, quoi. On a fait 80 épisodes et c'est incroyable. Et puis à chaque fois, on apprend des trucs. C'est ça qui est génial, quoi.
Attends, toi, t'es en couple ou pas ?
Ouais, je suis en couple, moi.
D'accord.
Des questions, genre.
Ouais, les questions.
Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
Je vais doser les questions, tu sais.
Oui.
Est-ce que tu t'es mis en couple pendant cette période-là ?
Je me suis mis en couple tout au début. En fait, c'est marrant parce qu'on avait enregistré les premiers épisodes déjà qu'on n'avait pas encore diffusés. Et j'ai rencontré ma copine à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, rien à voir, évidemment. Mais, et en fait, bah oui, donc ça fait déjà un petit moment. Mais c'est cool. C'est cool. Hein. Bah, j'apprends des trucs et ça me permet. Bah... Alors après, c'est... je ne sais pas si j'applique des trucs. Si, je pense que j'applique des trucs même inconsciemment, en fait, évidemment. Parce que quand tu discutes, quand tu communiques, bah, tu apprends des trucs. Et même des fois, c'est inconscient, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Moi, je trouve qu'on apprend. Non, mais moi, je trouve qu'on apprend énormément parce qu'on est. Enfin, le principe du podcast, il est. C'est les gens qui nous suivent le savent. C'est qu'on écoute.
Et on pose des questions.
Et en vrai, quand tu écoutes, tu apprends énormément. Et nous, on a une capacité d'écoute qui était déjà présente, qui s'est en plus développée. Mmh. Et voilà. Et donc, on est à l'écoute. Donc, on est des gens intelligents qui, en plus. Parfois,
on essaye d'être intelligent.
Non, mais je veux dire, on en déduit des choses. Voilà, quand on entend des femmes qui nous racontent certaines choses, même si on généralise pas, parce que le principe du podcast aussi, il est là, c'est que ce sont des, il y a un côté témoignage et portrait. Donc, quand une personne vient dans notre podcast et nous raconte son histoire, c'est son histoire à elle. Donc, on peut pas tirer nous de généralité de son histoire. Mais en tout cas, on est à l'écoute et on a un panel de témoignages qui nous ont tous touchés à divers niveaux. Moi, je sais qu'il y en a certains qui m'ont touché, d'autres, enfin, Connie, Dan, c'est d'autres peut-être témoignages qui les ont plus touchés. Mais ça nous a apporté vachement et ça nous a apporté dans la capacité d'écoute que moi, j'avais déjà à la base, mais que je décuple encore plus aujourd'hui dans mes relations personnelles. Mmh. Connie, tu as une question ?
Oui. Alors, on continue. Nous, tu sais aussi, on a fait des découvertes, comme ils le disent, on a fait des découvertes inattendues. On a testé des clichés sur nos invités pour voir s'ils tenaient ou s'ils avaient la peau dure, etc. Est-ce que toi, il y a des choses que t'as découvertes avec tous les témoignages que t'as eus des choses sur les relations de femmes que tu vraiment t'attendais pas et qui t'ont sauté un peu à la figure.
Moi, je pense qu'il y en a un. Je sais pas d'où je tiens, mais en fait, j'étais persuadée que ma génération, je vais parler de moi, qui était au collège lycée dans les années 90, on était une génération où clairement, côté cul, on n'avait pas eu de peau. On n'avait pas eu de cul, c'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, on était arrivé, c'était la génération sida. Je me souviens très bien. Je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge.
On est dans la même tranche.
Et franchement, moi je me souviens du cours d'éducation sexuelle, je sais même pas comment on peut appeler ça, enfin, ça ressemblait à rien sauf de l'éducation sexuelle, mais enfin voilà, qui nous expliquait, bon attention, si sexe égale sida égale mort, voilà, super, donc si c'est pas, mais par contre, mais par contre ça peut aussi donner d'autres choses vachement plus drôles, donc tu peux avoir des grossesses non désirées.
Au choix.
Et en fait, c'était ça, mais c'était là en mode, bah, en fait, donc le sexe égale danger, en fait.
C'était très anxiogène, je suis d'accord, à la fin des années 80, début des années 90.
Mais vraiment hyper anxiogène. Ouais. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, nous, notre génération, oh, bah, pas de bol, en fait. Enfin, pas de bol. On est arrivé dans cette époque où il fallait faire de la prévention, donc, bah, nous, on a eu une éducation sexuelle qui était une approche par les risques. Donc attention, risque, voilà, MST, IST et grossesse, je vais faire simple. Mais les choses ont dû changer. 20 ans plus tard, ça doit être mieux. Enfin, je sais pas, moi j'avais cette conviction. Puis tu vois, ensuite, t'as vu pas mal de choses, Sex and the City. Puis il y a Netflix qui est arrivé. Enfin, tu te dis, ouais, c'est bon, tranquille. Les gamins, aujourd'hui, ils ont une vraie éducation sexuelle. Et je sais pas comment, à quel moment j'ai pu imaginer ça. Alors, la seule chose... que vraiment, non, mais je suis tombée de haut. J'ai compris qu'en réalité, l'approche par les risques, c'était quand même en gros ce qui, au niveau familial, on va dire environnemental et scolaire, ce qui prévalait encore, en fait, en termes d'éducation. Donc, les gamins, ils savent encore à peu près sur les IST et tout ce qui est contraception, en tout cas grossesse non désirée, prévention des grossesses non désirées. Il y a un truc qui s'est rajouté, qui me semble absolument essentiel, mais qui n'existait pas à notre époque, qui est également le focus sur le consentement. Ça, franchement, c'est déjà un mieux. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est un mieux en termes de prévention que dans les faits, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est un truc qui, pour moi, est très compliqué à gérer, qui m'oblige, moi, à me former en victimologie. C'est le nombre de messages que j'ai chaque jour sur des témoignages de non-consentement. Voilà, enfin, tenir un compte Instagram qui parle de sexualité, ça veut dire avoir minimum 10 messages par jour où des personnes vont venir également parler de ça.
Comment tu gères des gens qui te parlent de non-consentement? Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est compliqué, non?
En fait, tout dépend de la situation. Hein. Tu sais, moi, j'ai déjà eu une situation où la personne sortait en fait, d'un viol hein, arrive chez elle. Et en fait, la seule personne à qui elle peut en parler parce qu'elle est mineure, c'est toi. Des choses en fait, sur lesquelles, moi en fait, quand tu crées un compte Instagram, tu n'es pas forcément équipé en fait, pour ça, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, je dois me former en victimologie. Donc, pour l'instant, je me forme à distance, mais quand le confinement sera fini, ce sera du présentiel. C'est évident qu'il faut se former quand on parle de sexualité en victimologie, parce qu'en réalité, et je remercie nous toutes qui nous, pour avoir fait cette étude très récemment sur le consentement, on parle de plus de 50% des personnes qui s'identifient comme femmes, en tout cas dans l'étude, qui ont connu des situations de non-consentement. Et on est parfois, ensuite ça dépend des questions, mais il y en a où on frôle les 90% sur est-ce que vous avez déjà ressenti de la pression de la part d'un partenaire pour avoir du sexe, pour faire du sexe. On est sur de l'ordre de 90%. En fait, les problématiques de consentement, c'est des choses qui n'existaient pas à notre époque et dont on parle aujourd'hui. Mais c'était même, je vais aller au bout de la phrase, c'est-à-dire au-delà d'une approche par les risques et quelque part le consentement, je vais le classer dans encore la prévention des risques, risque de non-consentement, et ben en fait, les gamins d'aujourd'hui sont comme nous, les gamins d'hier, où à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ensuite, 99, il y avait un ordinateur et on avait Google, mais c'était les débuts et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais en fait, notre éducation sexuelle, on se la faisait à l'arrache comme on pouvait. Mmh. Aujourd'hui, il y a plus de moyens, mais en réalité... les gamins aujourd'hui, ils vont s'éduquer majoritairement encore, dans la pornographie. Et en fait, c'est pas, je vais pas jeter la pierre à la pornographie parce que il y a des pornographies d'abord d'une part, et parce que surtout la pornographie, c'est un support masturbatoire. Il est conçu pour être un support masturbatoire. L'énorme failure, comme on dit en anglais, c'est que aujourd'hui en France, en tout cas, je vais parler de la France dans le pays dans lequel j'habite, on n'a pas d'alternative crédible à la pornographie pour faire l'éducation sexuelle des ados et des jeunes adultes. Et en fait, ça, c'est un truc que moi, j'ai complètement... Je crois que c'est le plus gros choc que je me suis pris sur la tête, en fait, quand j'ai créé ce compte. Mmh. J'ai réalisé, en réalité, que il s'était rien passé, en fait. C'est-à-dire, à part parler de consentement, alors qu'avant-hier, on n'en parlait pas, il n'y a rien qui existe aujourd'hui pour que les jeunes et jeunes adultes... il n'est pas question de plaisir et il n'est pas question de pratique sexuelle à aucun autre endroit, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais OK, bon, s'il faut remplir un vide, alors je vais le remplir.
C'est là où on voudrait... Enfin, c'est la question qui m'intéresse. Et comment ça se traduit, toi, à ton échelle, sur ton Instagram, ce vide d'éducation sexuelle? Comment tu fais?
Plusieurs choses. Déjà, ça se traduit, je pense qu'il y a le nombre. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils viennent parce qu'en fait, moi, pour le coup, et c'est ce que je dis aux éditeurs qui m'appellent, c'est ce que je dis aux parents aussi qui me contactent, etc. Je fais le choix, et c'est un choix éditorial, de parler de tout en ce qui concerne la sexualité. Je garde mes filtres qui sont le respect, le consentement, la bienveillance. Et l'inclusivité, évidemment. Et ensuite, on va parler de tous les sujets. Moi, je parle de toutes les pratiques sexuelles. Il y a rien qui est sale, il y a rien qui est dégradant tant que c'est pratiqué dans les conditions, les valeurs qui sont au cœur de tout. Et ensuite, je vais parler de tous ces sujets-là et c'est OK. Et en fait, les gens qui me disent, mais c'est un peu cru, je fais, mais en fait, vous préférez quoi? Donc en fait, vous êtes en train de me dire, Instagram, c'est pas accessible avant 13 ans ou 14 ans. On sait qu'à 14 ans, plus de 80% des gosses ont déjà vu du porn. Voilà. Ce qu'ils voient comme porn, croyez-moi que c'est différent de voir des images qui peuvent être assimilées à de la violence, voire des traumas pour des gamins. C'est différent de ce qu'ils vont lire sur mon compte, qui est quand même vachement encadré en termes de valeurs. Et du coup, je dis aux gosses, mais aux parents, je dis, mais. Chez moi, on parle de tout. Et en fait, il faut offrir une alternative crédible à la pornographie gratuite accessible sur les tubes, etc. Pour que les enfants, et les ados, les jeunes adultes, n'importe qui, puissent s'éduquer ou s'informer sur le sujet de leur choix Il ne faut pas avoir peur de créer ces alternatives et faire de l'éducation sexuelle. Eh ben, c'est noble, c'est de noble, ça reste de l'éducation. Et moi, je vais en parler et puis je n'ai pas de problème à en parler. voilà, je n'ai pas l'impression de faire un truc glauque. En fait, j'ai plutôt l'impression de... Enfin, je ne sais pas, ensuite, j'ai envie, il y a des mots qui me viennent, mais je me sens presque impostrice à les dire, mais... Enfin, en fait, non, on peut changer des vies, on peut apporter du plaisir, en tout cas, peut-être du bonheur, aider des gens à surmonter des traumas. Ouais. Enfin, mais en fait, voilà, c'est ce que le compte permet. Alors, moi, j'ai pas de problème à parler de ça. Ça, c'est le premier constat où moi, je suis tombée de ma chaise. J'étais persuadée qu'il y avait eu quelque chose qui s'était fait en 20 ans, quoi. Franchement, en termes d'éducation sexuelle, c'était tellement nul, et ben, c'est toujours resté nul.
Voilà. Ah, c'est toujours nul.
Franchement, là-dessus, je pense que c'est la première grosse claque que je me suis prise quand j'ai ouvert le compte.
Voilà. Et la deuxième? T'en as pris une deuxième. T'en as peut-être pris plus de deux.
La deuxième, je vais te dire, j'en prends tous les jours des claques.
Ouais.
Pas forcément pour mon plaisir. Mais honnêtement, la deuxième, c'est je pense que j'avais pas réalisé, et ça, je vais pas parler à titre personnel, quand il y a beaucoup de... Là, j'ai typiquement ce soir, j'ai posté un témoignage sur une personne qui simulait son plaisir, une fille. Et en fait, je ne pensais pas avoir autant de personnes qui m'exprimaient dans mes messages. Des personnes qui ont des vagins, qui s'identifient souvent comme des femmes, qui me disent, je n'ai jamais connu ou jamais eu d'orgasme. Et deux, et ça c'est le cas le plus dur pour moi, je sais très bien avoir des orgasmes seuls. Par contre, avec mes partenaires, j'ai jamais connu. Et en fait, on est dans un schéma de sexualité qui correspond à une norme un peu old school, qui va être, je mets 1000 guillemets, préliminaire, donc voilà, 1000 guillemets, pénétration et Jacques. En fait, le sexe, c'est pour son plaisir à lui. Et en fait, je n'arrive pas, en fait, je n'ose pas lui dire qu'en fait, je n'ai pas de plaisir, donc je simule. Et en fait, je ne sais pas comment lui dire sans le vexer que j'aimerais qu'on change, parce qu'en fait, je sais très bien que je suis capable d'avoir des orgasmes. Je ne sais pas comment lui dire en fait que j'aimerais qu'il s'intéresse à mon plaisir.
Qu'est-ce que tu leur réponds alors à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu peux leur répondre, quoi? Parce qu'en plus c'est des cas par cas. Enfin, je veux dire, nous on connaît, chaque personne est différente. C'est ce qu'on retient aussi, c'est de notre podcast, c'est qu'on est tous différents, hommes, femmes, mais à l'intérieur des sexes, on est aussi tous différents, des sensibilités différentes, etc. Et on sait qu'il y a une réponse qui est adaptée à chacun. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu leur dis, quoi?
Ok, alors je vais répondre en deux temps.
C'est difficile.
En fait, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien ne pas généraliser, mais c'est-à-dire, j'ai envie de dire, j'arrêterai de généraliser le jour où j'en ai pas 10 pareils par jour.
Ouais, ok. Mais
alors il y a deux choses. Tu vois, moi, au début, je me disais, il suffit de leur dire de communiquer. Enfin, pour moi, la communication, c'est la base. Et en fait, quand tu leur dis, t'as qu'à lui dire, en fait. Et la personne, elle me disait, mais je n'ose pas lui dire. J'étais là en mode, on va creuser. Donc, pourquoi tu n'oses pas lui dire? J'ai peur qu'il se vexe. Alors, aujourd'hui, j'y vais plus par quatre chemins. Aujourd'hui, le message que je vais laisser, ça va être, ok, donc toi, tu te vexes. Pardon, je recommence. Toi, tu as peur qu'il se vexe parce que tu lui dis la vérité. Et est-ce que en fait ce serait pas plutôt juste je dis à la personne peut-être qu'il faudrait voir les choses un peu différemment, c'est-à-dire comment toi tu arrives à ne pas te vexer en fait que la personne ne s'intéresse pas à ton plaisir en fait.
Si je peux me permettre en fait, est-ce que avec chaque personne qui te pose des questions, tu rentres dans ce genre de dialogue?
Bien sûr.
Ça veut dire qu'en plus des messages que tu as, des témoignages que tu as des personnes à qui tu prends le temps de rentrer. Et là, quand je dis bien dialogue, c'est-à-dire que nous, pour les rares fois où on répond, moi, je réponds des fois sur le compte Instagram. C'est un message, puis un autre message, puis un autre message, puis un autre message. Donc, c'est une vraie conversation. Et ça, tu rentres dans ces réponses-là avec toutes les personnes qui t'envoient des messages.
Des fois, elles se contentent de répondre, mais des fois, c'est effectivement des messages, des échanges de messages. Aujourd'hui, moi, j'ai une position qui peut, et je vais assumer ma entre guillemets, ma radicalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais laisser un long message où je vais lui dire, écoute, voilà ton message, je le connais bien parce que je le reçois plein de fois par jour. C'est juste, toi, t'as peur de le perdre, en fait. Et t'as peur qu'il se vexe parce que tu lui demandes de penser à ton plaisir, en fait. Et donc, j'ai envie de te dire, si tu es avec une personne voilà, où tu penses que c'est plus important de faire... t'as peur qu'il parte parce que tu lui demandes de penser à ton plaisir. Alors que toi, tu aurais mille raisons de partir parce que je ne sais pas depuis combien de mois vous êtes ensemble, depuis combien d'années, mais que manifestement, lui ne s'intéresse pas à ton plaisir. Et si je veux dire, mais surtout, il faut que tu aies cette conversation. Et si la personne part parce que elle se vexe, je ne sais pas pourquoi, blessée dans son ego, parce que tu lui demandes, parce que tu lui dis la vérité en fait, parce que tu aimerais qu'il s'intéresse à toi, alors je lui dis, mais je te souhaite, alors non seulement qu'il parte, mais surtout qu'il parte très loin, voilà. Je suis désolée, hein.
C'est hyper intéressant. En fait, ça veut dire que tu donnes vraiment des conseils, c'est-à-dire que tu prends à corps de chaque message et sois pas désolée. Tu es sur ta communauté, tu donnes ton avis. Ouais. Je trouve que c'est louable, moi, au contraire.
Alors en fait, il y a des moments où je m'engageais pas. J'essayais d'être la plus neutre. En fait, là, aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a quelque chose en moi, et c'est un peu ça rejoint un peu ce que posait la question que posait Connie tout à l'heure. C'est-à-dire, quand tu as la question une fois tous les 100 ans, enfin une fois tous les 20 jours, on va dire. Mais moi, en fait, quand tu as la question 10 fois par jour, tu es là en train d'un... Et donc, au début, moi, je me disais, oh, bah dis donc, un petit couple qui ne communique pas, bah, je vais leur dire de communiquer. Donc, je disais au début, bah, faut que tu en parles, etc. Et en fait, je réalisais que les peurs, elles sont toutes les mêmes. Hein. Et elles ont... et en fait, c'est un peu ce que... Enfin, ce que moi j'assimile énormément à, enfin, je sais pas comment dire. En fait, on n'est plus juste sur le registre de la communication parce que effectivement, il y a un problème de communication. Mais en fait, on est également, et c'est deux problématiques qui se cumulent en fait. On est également sur un problème systémique personnes, en tout cas, j'ai envie de dire de personnes qui ont des pénis essentiellement, donc. Voilà, je dis ça parce que j'ai envie d'inclure toutes les personnes, quel que soit le genre auquel elles s'identifient, et qui ont du mal en tout cas, ou en tout cas ne sont pas informées, ne sont pas éduquées sur le plaisir clairement féminin, d'une part, et d'autre part, à qui on n'a pas dit, ou en tout cas qui n'ont pas capté un moment, en fait, qu'il fallait être à l'écoute en fait. De sa partenaire et que reproduire des films de cul à la maison, ça n'avait strictement aucun sens.
Donc là, on en revient au problème d'éducation que tu soulignais au début par rapport à ton compte où tu disais tu pensais qu'il y avait un chemin d'éducation qui a été fait et qui n'a pas été fait. Ça me fait penser au compte un peu que tu dois connaître de Jouissance Club, non ?
Oui, je connais bien.
Qui m'a l'air assez porté sur le plaisir, sur justement partager le plaisir et partager la connaissance du plaisir.
D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à June, à qui j'ai parlé tout à l'heure et qui sait très bien que je suis chez vous ce soir.
Eh ben, on l'embrasse aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger 2-3 messages avec elle. Ouais, on l'embrasse. Son compte est aussi top. Hein. C'est une démarche, c'est pas la même démarche puisqu'elle est vraiment dans le côté apprentissage pur et dur, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est vraiment des tutoriels presque son compte pour.
Je sais pas si vous avez lu son livre. Son livre, c'est des. Alors moi, je recommande à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de profiter du confinement pour commander en format numérique s'ils n'ont pas envie que des livreurs se déplacent le livre de Dune qui s'appelle donc Une cartographie du plaisir de Jouissance, donc Dune aka Jouissance Club. C'est pas que des tutoriels, c'est également des passages extrêmement bien sentis sur le consentement, sur le sex powerment, c'est-à-dire assumer son plaisir, assumer de raconter ce qu'on aime, d'exprimer à l'autre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, etc. Enfin, c'est des choses qui, pour moi, me semblent la base. Mais voilà, donc il y a plusieurs problèmes, entre guillemets, problèmes. J'ai envie de dire plusieurs sujets qui reviennent de manière récurrente. Il y a le sujet de la communication. Et ben, à quel moment, toi, t'arrêtes de te sentir libre d'exprimer à ta partenaire ce que t'aimerais qu'on te fasse pour avoir du plaisir. Et la deuxième chose, c'est évidemment un problème systémique qui est, en fait, et pourquoi Pourquoi les personnes qui vont se censurer quasi, enfin en tout cas en plus grand nombre, pourquoi ce sont des personnes qui s'identifient comme femmes, voilà, enfin des personnes à vagin. Il y a quand même une vraie question sur le sujet.
D'accord.
Et justement, tu parlais de Jouissance Club qui a donc sorti un bouquin. Ça me fait penser à ce que toi tu projettes, parce que là en fait tu pourrais. C'est dans les cordes ou c'est pas encore, c'est juste dans ta tête pour l'instant?
Ben, pour l'instant, c'est dans la tête de beaucoup d'éditeurs qui suivent le compte. je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que je sois contactée par une nouvelle maison d'édition.
C'est
plutôt
cool.
C'est chouette. Ouais, au début, j'étais genre, ah, c'est merveilleux pour l'ego. Maintenant, au-delà de ça, la vie, c'est une question de choix. Mes journées, elles font 24 heures comme tout le monde. Et ouais. En fait, j'ai un compte qui aujourd'hui, alors peut-être que je fais des choix qui sont discutables, et je pense qu'ils sont discutables. Mais j'ai un compte qui me prend au moins une dizaine d'heures par jour, et j'ai 3 enfants. Alors voilà, une fois que cela est dit, et puis accessoirement, tu vois, j'aime bien dormir, j'aime bien manger, j'aime bien baiser. Enfin, c'est compliqué, quoi. Faut faire des choix, quoi. Donc le jour où j'arriverai à faire des choix pour répartir un peu différemment les choses. Oui, écrire un bouquin, pourquoi pas. Pour moi, il était essentiel qu'un bouquin comme celui de Jouissance Club paraisse. Je pense que si Dune n'avait pas fait paraître son bouquin, je me serais précipitée vers l'écriture beaucoup plus rapidement. En attendant, en tout cas, que j'écrive quoi que ce soit, je trouve que c'est un excellent référent pour toute personne qui a envie de kiffer sa sexualité, seule ou à plusieurs. Et ensuite, écoute, rendez-vous dans un an. Ouais,
on verra bien. On a une question. Qui a une question, Dan?
Charline, moi j'ai encore une petite question. Ouais. Sur les messages que tu reçois, il y a des messages d'hommes et de femmes. On a sorti une tendance pour les messages de femmes. Est-ce qu'il y a une tendance pour les messages d'hommes?
Écoute, c'est des messages que moi que je trouve toujours très choupinés, en fait.
Choupinés.
Ouais, je sais pas. Non, c'est pas ça, j'avais pas le droit de dire ça.
Je crois qu'on comprend.
J'aime pas sortir des tendances parce que du coup, je suis obligée de faire des généralités. Ouais. Je suis obligée de sortir des tendances majoritaires et ça va exclure plein de minorités. Mais,
alors, tu sais quoi? Peut-être un message d'homme qui te marque, qui t'a marqué plus que les autres. Peut-être le plus choupiné de tous.
Le dernier de Choupinet, je te rappelle.
Alors attends, d'hommes, je pense qu'il y en a plein qui sont en couple avec des femmes qui, pour des raisons X ou Y, se mettent des barrières mentales, des barrières mentales, connaissent des barrières physiques et me demandent de l'aide pour aider leur partenaire à dépasser ces barrières.
D'accord. Tu leur réponds quoi?
Typiquement le genre de... Tu me demandais, est-ce qu'il y a des trucs où il y a des échanges? C'est le genre de message où c'est pas en une réponse que je vais résoudre le truc, donc j'essaie de comprendre, etc. En fait, ce que je réponds, enfin la seule réponse que j'ai à donner, en fait, d'une part, c'est que s'il y a des douleurs, et là je m'adresse à toutes les personnes qui peuvent écouter votre podcast, si vous avez des douleurs pendant le sexe et en particulier pendant la pénétration, s'il vous plaît, allez consulter, en fait. Les dyspareunies, avoir des dyspareunies, c'est des douleurs à la pénétration.
Mais ensuite, quand tu dis aller consulter, c'est physiologique. Ça peut être d'abord physiologique. Une maladie, je ne sais pas, un truc.
Aller consulter une sage-femme ou une gynéco. Aller consulter, en tout cas, aller faire poser un diagnostic sur vos douleurs. Une douleur n'est pas normale, surtout si elle est récurrente, si elle est chronique. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des douleurs, arrêtez de vous dire que vous avez un problème, que vous en avez honte, que vous n'êtes pas entière, pas normale. Allez poser un diagnostic sur ce que vous avez. Et surtout, s'il y a un diagnostic, mais aidez-vous vous-même à aller mieux. Donc, surtout, faites le travail nécessaire pour de rééducation, kiné, sexologue. Il y a des protocoles qui sont mis en place pour dépasser des douleurs. Et franchement, ça vaut le coup. Ça, c'est la première chose. Si vous avez des douleurs, allez consulter. Ensuite, pour le reste, j'ai envie de dire, et ça, ça vaut quel que soit le genre et votre orientation sexuelle, si vous avez l'impression que la personne avec laquelle vous faites l'amour, avec laquelle vous faites du sexe, a des limitations ou en tout cas ne s'épanouit pas.
Ouais.
La première chose que vous avez à faire, c'est de créer un espace de bienveillance, un espace de non-jugement, un espace pour rassurer la personne, pour envelopper-la de bienveillance, d'amour et de mots valorisants. Créer cet espace-là, et vous avez ce que je crée moi à une échelle nombreuse. Chacun a la possibilité de le recréer à l'échelle de son couple, en fait. Vous êtes tous capables de faire en sorte dire des mots positifs. C'est de la communication non violente et communication positive et de la psychologie positive de base, mais c'est très important. Enfin, on le dit pas assez. Des mots,
Pour aller vers la fin du podcast, on pourrait parler de tes projets. Tu as des projets en cours, des choses dont tu peux parler ou tu restes sur ton Instagram et pour l'instant
et
tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé si c'est top secret.
Ouais.
Secret.
Je vais être hyper franche. En fait, j'avais plusieurs projets, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle le Corona qui nous est tombé dessus.
À tous là. T'avais des projets et
pour l'instant, je suis un peu en comme tout le monde en fait. C'est-à-dire, je suis en observation.
En pause.
Ouais.
Là, je suis en statu quo, en stand-by. Je sais pas ce que je vais faire. Je peux pas te dire ce que je vais faire dans 6 mois. Voilà. C'est un bon exemple. Mais j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça. Même si dans 6 mois, je devais revenir me remettre dans ma vie d'avant, ma vie professionnelle d'avant, qui était dans laquelle je trouvais pas beaucoup de sens. Même si j'avais des collègues extraordinaires et j'étais bien entourée, mais au niveau du sens, c'était pas mon truc. J'ai envie de dire, et alors je me sens tellement chanceuse, hyper chanceuse en fait,
De pouvoir vivre de ton expression, quoi.
Mais j'ai kiffé. Je suis en train de faire un truc comme j'avais jamais imaginé un jour dans ma vie prendre autant de plaisir à faire quelque chose qu'on appelle un travail. Et moi, je me lève tous les jours et c'est une histoire. Je pense que quelqu'un m'a dit un jour, il me dit, mais comment tu fais pour tenir avec 14 heures de boulot par jour quand j'ai des pics de charge? Et je lui dis, mais en fait, on est capable de faire des trucs ouf par amour. Et en fait, je pense que c'est le
par amour du travail aussi.
Par amour du travail, c'est par amour. Pour moi, c'est l'amour de ma communauté.
L'amour du travail comme l'amour du reste. Moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin de dire qu'on peut faire des choses de fou par amour. C'est un épisode un peu long, mais du coup, merci Charline.
Merci
c'était
à vous.
C'était chouette de t'avoir.
Merci beaucoup. Merci.
C'était super.
Merci. Merci. Ouais, c'était très chouette. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux. On se retrouve jeudi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilhommes en confinement. Je ne sais pas avec qui. Ce sera c'est Julie. Et merci Conny, mon backup.
On va revenir sur pourquoi continuer à échanger sur les applications quand on ne peut pas se rencontrer, et ce sera un point de vue complètement différent de celui qu'on a déjà eu avec
nos invités précédentes qui étaient Aude et qui étaient Eugénie.
Peut rappeler juste l'Instagram de Charline.
Charline, l'Instagram Orgasme et moi, avec les underscores entre chaque mot. Mais de toute façon, je pense que quand on tape Orgasme et moi dans le moteur de recherche Instagram, on tombe tout de suite sur toi. Voilà.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci à toi d'être venu.
Ouais. Merci à nos nombreux auditeurs. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Et merci Mitch, merci Cynthia, merci les gars, merci Conny, merci Dan.
Merci à vous. Yes.
Et un dernier merci à notre immense communauté. On vous voit et merci. Ciao.